Bonjour à vous tous, chers amis auditeurs, et merci d'être une nouvelle fois à notre écoute. Notre désir, c'est d'être une source de bénédiction et d'encouragement pour chacun de vous. La dernière fois, nous avons entamé un sujet intitulé « Dans la vallée de Béraka ». Avant la fin de cette émission, vous connaîtrez la signification du mot « Béraka ». Restez donc à l'écoute de ce message et soyez inspirés par le partage de la parole de Dieu. Dans notre dernière émission, nous avons fait une lecture dans le chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques. Nous avons constaté comment le petit royaume de Juda fut attaqué par une coalition de rois qui n'avaient qu'un seul objectif, écraser le peuple de Dieu et repartir avec un grand butin. Dans sa frayeur, le roi Josaphat avait proclamé un jeûne pour tout le peuple. Celui-ci s'était réuni à Jérusalem, où Josaphat a adressé au Seigneur une prière vraiment poignante que nous avons examinée ensemble. À présent, écoutons la suite du récit que voici. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. « Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Nous constatons donc qu'une fois que le roi Josaphat avait terminé sa prière, un lévite du nom de Jacaziel a commencé à prophétiser. Prophétiser signifie parler de la part de Dieu. Autrement dit, Jacaziel n'a pas partagé ses propres pensées, mais celles de Dieu. La prophétie de ce lévite était donc une réponse directe et immédiate à la prière du roi de Juda. D'autre part, cette prophétie était la preuve que Dieu parle toujours et qu'il peut et veut nous parler directement. Je bénis le Seigneur pour le don de prophétie. Ce don est toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle par voie prophétique, par la bouche d'hommes et de femmes consacrés et attentifs à la voix de Dieu. C'est une richesse aussi bien pour des individus que pour des assemblées tout entières. Cela vaut la peine d'examiner la prophétie de Jacaziel. Mais nous devons d'abord donner la signification de son nom. Les Juifs avaient l'habitude de donner à leurs enfants des noms qui étaient porteurs de messages ou qui exprimaient un désir, un vœu ou une espérance. Ainsi, Jacaziel signifie « Dieu voit ». Quel beau message ! Que c'est précieux de savoir que notre Dieu voit. Au moment de l'attaque de cette coalition ennemie, il était particulièrement réconfortant de savoir que Dieu voyait. Il voyait leur situation et le danger qu'il y était. Quand Dieu voit ses enfants dans le pétrin, il ne reste pas le spectateur passif, insensible et indifférent. Non, il intervient et il manifeste sa puissance libératrice. Monsieur, madame, Dieu vous voit en ce moment. Il voit ce que vous endurez. Il connaît votre situation et il ne reste pas insensible à vos circonstances éprouvantes. Ce qu'il a fait du temps du roi Josaphat, il peut et veut le faire à votre égard, chers amis auditeurs, si du moins vous vous branchez sur lui et si vous vous efforcez de faire ce qui lui est agréable. À présent, approfondissons le message prophétique de Jacaziel. La toute première chose que le Seigneur a dite à son peuple, c'est de ne pas craindre et de ne pas être effrayé. Ce message est toujours d'actualité, car nous connaissons tous des moments de crainte et de frayeur. Cela me rappelle le titre d'un livre, « Délivrance de la crainte et de la maladie ». Son auteur reconnaît notamment quatre grands ennemis de l'humanité, en l'occurrence le péché, la maladie, les démons et la crainte. Il se peut que votre cœur soit troublé, agité et craintif à cause de ce qui vous est arrivé ou ce qui vous guette. Peut-être avez-vous peur d'un voisin qui veut vous faire du mal, ou vous craignez de perdre votre emploi et de ne plus être en mesure d'assumer vos responsabilités financières. Quelle que soit la cause de votre crainte, En ce moment même, le Seigneur vous dit, « Mon enfant, ne crains rien et ne sois point effrayé. » Retenez les paroles du Seigneur Jésus qui a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Une deuxième source de réconfort pour Judas était le fait que le Seigneur leur avait dit de ne pas s'effrayer devant cette multitude nombreuse. L'armée qui venait à leur rencontre devait être bien impressionnante. L'armée qui venait à leur rencontre devait être bien impressionnante, suffisamment grande pour leur faire perdre courage. Mais le Seigneur leur interdisait de se laisser impressionner par le visible, ce que leurs yeux voyaient. Combien nous aussi, nous avons besoin de cette parole encourageante, car nous aussi nous nous laissons tellement vite impressionner par le visible, par ce que nos sens perçoivent. Mais la Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vue. Chers amis auditeurs, c'est un véritable exercice auquel nous devons tous nous livrer. Nous devons apprendre à ne pas tenir compte de ce que nos sens enregistrent, mais de ce que notre Dieu dit dans sa sainte parole. C'est la raison pour laquelle nous devons nous nourrir de la Bible, parole vivante de Dieu. L'élément suivant dans la prophétie de Jacques Haziel, c'est que le Seigneur rassurait Judas qu'il n'avait pas besoin de combattre, puisque ce serait Dieu lui-même qui combattrait pour eux. Et comme si une fois n'était pas suffisant, le Seigneur l'a répété une deuxième fois, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. » Aujourd'hui encore, Dieu veut combattre à notre place. Quand nous marchons avec le Seigneur et nous nous trouvons dans des situations difficiles ou dangereuses, nous pouvons lui faire confiance qu'il combattra aussi pour nous. Il défendra notre cause. Il érigera une protection autour de nous, afin que l'ennemi ne puisse vous toucher. Vous l'avez peut-être ignoré jusqu'à présent, mais la Bible appelle notre Dieu à plusieurs reprises un puissant guerrier. Mais la prophétie de Jacques Haziel renferme tout de même un élément de surprise. Lequel ? Après avoir interdit à son peuple de craindre et l'avoir assuré que lui-même combattrait pour eux, il leur a dit « Demain, descendez contre eux ». Quel en est le message ? C'est que le fait que Dieu combat à notre place ne nous évite pas toujours la confrontation avec l'ennemi ou la situation adverse et l'épreuve. Judas devait aller à la rencontre de l'adversaire. « Monsieur, Madame, Dieu ne nous épargne pas toujours nos épreuves. Celles-ci ont leur place dans la vie du croyant. Elles jouent un rôle important dans notre formation spirituelle et dans la transformation de notre caractère. C'est pourquoi ne vous rebiffez pas quand vous passez par un temps de difficulté. Écoutez le sage conseil de Jacques, demi-frère de notre Seigneur Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Avez-vous compris que nos épreuves produisent quelque chose de positif en nous? Entre autres, la patience, qui fait partie du fruit de l'esprit que Dieu veut cultiver en chacun de ses enfants. Ce fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus-Christ que nous devons tous développer, si du moins nous voulons plaire à notre Dieu. Il y aurait d'autres choses intéressantes et édifiantes à dire au sujet de cette magnifique prophétie de Jacques Haziel, mais passons à présent à la phase suivante. Le récit sacré relate que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa, à la rencontre de leurs ennemis. Et surprise, au lieu de mettre ses meilleures troupes à la tête de l'armée, le roi y plaça les chantres qui célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Du point de vue purement humain, une telle stratégie de combat semble parfaitement illogique, pour ne pas dire insensée et complètement folle. Toutefois, ne soyons pas trop hâtifs avec notre jugement, mais écoutons d'abord la suite du récit qui dit ceci. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Nous trouvons ici un exemple de ce que l'on appelle parfois la puissance de la louange. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, et elle nous exhorte régulièrement à louer et à exalter notre Dieu. Puisque notre louange glorifie Dieu, il libère sa puissance et manifeste sa gloire en notre faveur. Toutefois, retenons bien la leçon. Ne louons pas le Seigneur dans le but d'obtenir quelque chose de lui, car alors notre louange devient égoïste. Nous louons et exaltons le Seigneur parce qu'il en est digne. Dans le cas du roi Josaphat et du peuple de Juda, leur louange a déclenché la puissance de l'Éternel, qui s'est occupé en personne de l'envahisseur. Et c'est comme la prophétie de Jacaziel l'avait annoncé, Israël n'avait pas à combattre. Le Seigneur a combattu à leur place et leur a accordé une victoire éclatante. Le danger qui menaçait le petit royaume de Juda a été écarté dans un rien de temps. Parce que Dieu est fidèle et il honore ceux qui le cherchent et qui mettent leur confiance en lui. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, cela vaut vraiment la peine de servir le Seigneur et de lui accorder la première place dans notre vie. Mais notre histoire ne se termine pas seulement avec la défaite écrasante de l'adversaire. Il y a encore un plus. En effet, le récit sacré relate le fait suivant. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu « vallée de Béraka ». Non seulement le peuple de Juda fut-il délivré de l'envahisseur, il a également pu s'emparer d'un butin tellement considérable qu'il leur fallut 3 jours pour tout ramasser. Quelle richesse! Quelle abondance! La conclusion est simple. Leur terrible épreuve a fini par tourner à leur avantage. Monsieur, madame, retenez cette vérité. Ceux qui planent actuellement comme une ombre menaçante sur votre vie, ceux qui essaient d'étouffer votre joie de vivre, Dieu peut le transformer en une source de bénédiction. La vallée de l'épreuve peut devenir une vallée de Béraka, une vallée de bénédiction. Voici la signification du mot Béraka. Mais la vallée de Béraka est aussi la vallée des remerciements, des actions de grâce. Josaphat et son peuple n'ont pas manqué de rendre grâce à Dieu pour la belle victoire qu'il leur avait accordée. Nous aussi ne manquons jamais de témoigner notre reconnaissance à Dieu pour toutes ces bénédictions dont il nous comble jour après jour. Pourquoi ne pas le faire maintenant, ensemble? Je te remercie, Seigneur, de tant de grâces, tant de bénédictions et tant de victoires que tu nous as accordées au fil du temps. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants et nous te louons pour ta bonté infinie et ta fidélité à notre égard. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous voici parvenus à la fin de notre temps passé ensemble. C'est avec joie que je vous rencontrerai une nouvelle fois la semaine prochaine, même jour, même heure, sur cette même fréquence. Soyez bénis, chers amis.